Pierre Sandrin dont vous parliez, là, qui joue de la guitare. Qui
oui,
joue...
oui, oui.
C'est pas un copain de l'époque de Versailles, c'est après.
Il habite à Bourg-la-Reine. C'est un Écossais que j'ai rencontré dans les ateliers d'écriture. Et lui, il est très branché rock'n'roll. Il est bien meilleur pianiste que moi. Très branché musical, très solide.
Vous êtes resté en lien avec lui?
Oui, très excellente culture rock. Il suit toute l'actualité, il est extrêmement courant de musique. Très branché, Il n'est pas. Il n'a aucun préjugé. Il est allé en Inde et il a toutes les sortes de musique, mais beaucoup de rock psychédélique, beaucoup de rock actuel.
Est-ce que vous achetiez des revues, je reviens un peu en arrière. Est-ce que vous avez acheté des revues spécialisées dans la musique que vous lisiez?
Pendant 10 ans, j'ai lu Rock et Fond. En 83, j'avais tout bazar délangé. C'est pareil, j'ai dû les racheter. Une partie de la collection, moi, je l'ai reconstituée en 2007-2008. Bon, Parce que dans l'histoire avec mon frère, ce qui était compliqué, c'était de faire la part des choses entre le négatif et le positif, quoi. Toutes les expériences négatives d'Alain avec la drogue, avec l'univers du rock'n'roll. Donc il fallait positiver toutes ces choses-là. C'est un transfert en quelque sorte d'énergie, de choses négatives en
positif. Convertir. Hein.
Voilà. C'était très long, ça a pris 30 ans de travail. C'est un énorme travail de réparation de l'œil.
C'est Frédéric Nolen, là. C'était Fred Chichon, je trouve.
Ah oui,
arrive de ressentir des chocs musicaux avec des choses, actuelles, des années 2000 ou des années...
Oui. Pas tellement, mais il y en a.
C'est quoi votre... Votre choc des années 2000, ça... Vous en parlez un peu?
Il n'y en a pas tellement.
Le dernier...
Les vraies émotions qui m'arrivent, c'est très souvent de... Il y a une Marianne Faithfull en concert il y a 5 ans, à France Inter, il y a une Marianne Faithfull, c'est l'ancienne génération, mais les nouvelles générations, parfois, les groupes invités à France Inter, ou à France Culture, les groupes actuels, souvent les plus méconnus, enfin, underground, il y en a qui sont formidables. Il y en a qui sont formidables, il y en a au moins 3 ou 4 qui sont géniaux. J'ai oublié les noms, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment très bien. Qui font le ménage, c'est-à-dire ils vont à l'essentiel, ils gardent une guitare, un clavier, ils font des trucs expérimentaux comme dans les années 60. Quoi. Ils retrouvent vraiment l'essence du truc. Il y en a qui sont formidables. Mais j'écoute plus la FM parce qu'il y en a des quantités phénoménales. Donc, on ne sait plus qui on est à la fin. J'ai arrêté d'écouter tout ça, mais j'en ai écouté pas mal pendant 2 ou 3 ans. Je vois à peu près Dominique Alain, tout ça, Curage. Bon, je connais le panel, quoi. Je vois ce qui se passe actuellement.
Vous cherchez lequel?
Mon disque, moi.
Alors là, j'ai Rimbaud Melville.
Oui, ah, le dernier, celui que vous avez fait, voilà, cet hiver
celui-là,
à Noël.
Voilà, c'est celui-là.
Celui que vous avez fait à Noël, les sessions celui-là. De Noël dernier.
C'est celui-là. Pour entendre le son du piano de Stéphane. C'est ça qui est intéressant. C'est ça le...
C'est la première fois que vous enregistriez avec dans un vrai studio?
Non, en 2011, il avait un studio au Chenet, mais qui a disparu. C'est une sorte de loft dans un bâtiment industriel. Il l'a quitté en... Là, on était dans la cave de Stéphane. C'était les chansons d'Alain, c'était celui-là.
C'est celui-là, ah oui, d'accord.
Et celui-là, on l'a fait à Noël.
Oui.
Il a la moquette orange dans son studio, il a un ordinateur, et c'est magnifique parce que lui il est resté comme il était il y a 30 ans, il a toujours des cheveux longs comme Neil Young, et c'est magnifique.
Là
il, ouais. Et comme Soft Machine, il a de la moquette, deux pianos, un petit clavier, un ordinateur, et on a fait un boulot mais magnifique, vraiment phénoménal. En une après-midi on enregistre le disque. Il y avait la pleine lune au-dessus des HLM de Montreuil, à la sortie de Versailles, et c'était magique, ouais. De la magie pure, quoi. Mm-hmm. Vraiment, c'était incroyable. Il n'a pas changé un iota son mode de vie depuis 1976, il est resté 100% babacool et d'une gentillesse totale. Quoi. Et ça m'a redonné beaucoup de courage par rapport au monde actuel qui est tellement brutal et impitoyable. Lui n'a pas changé d'un iota. Sa philosophie de vie n'a rien changé. Et c'est extraordinaire, quoi.
Vous m'entendez? Vous, par ailleurs, vous en avez peu parlé là, mais moi j'ai l'impression que vous aimez beaucoup les chanteuses françaises. Underground, oui, je pense à la sœur de Maxime Le Forestier, Saint-Saëns. Vous aimez beaucoup Colette Mani, Catherine Ribeiro, Jacques Marissens.
Jacques Marissens, et puis Manique.
J'ai l'impression que Manique, vous aimez beaucoup ces chanteuses.
Isabelle Maillot, ça. J'ai écouté, je les connais pas par cœur. Puis aussi Karadec, j'aime beaucoup Karadec. Goldman, j'aime un peu moins, mais Karadec. Ça, c'est...
Ce que j'appelle la chanson française, c'est quelque
Yves
chose.
Simon,
on a beaucoup
Simon,
parlé du rock, mais
beaucoup,
oui. Vous aimez beaucoup la chanson aussi.
Yves Simon.
Tout ça.
Mansell, j'ai tous les albums. Mansell. Et... Ça, c'est la New Way. Une, trois, un.
Ça, c'est la légende de c'est la chanson sur Jim Morrison, oui. C'est Open the Doors.
Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. J'ai mis 6 mois à l'écrire, cette chanson.
Je me souviens bien.
Mine de rien, ça n'a pas l'air, mais...
Non, on vous a vu là, ça au journal, entre le journal et le piano, retravailler vos textes, les biffer, répéter... Vous en écrivez toujours, des morceaux, actuellement, depuis Noël dernier?
Non, j'ai rien écrit de nouveau.
D'accord.
Je travaille un peu le piano. Mais les textes, ils sont bien écrits, je pense que c'est bien ça souligne, quoi. J'ai fait 25 couplets, j'en ai gardé 6 finalement.
avec Jean Guérin, vous faisiez des ateliers
d'écriture, de création de chansons. Oui, c'est lui qui m'a appris à écrire des chansons.
Comment vous avez trouvé ces lieux comme ça, ces ateliers de création, de poésie ou de...
Par les associations, la vie associative. Ouais. Par le bouche à oreille, comme ça. Comme la d'Amande, d'ailleurs. Pareil. C'est le bouche à oreille, une adresse, qui donne une adresse, qui donne une autre adresse. La vie associative parisienne.
Depuis cette fenêtre-ci, on aperçoit le lieu où a vécu...
Toute la difficulté, c'était d'avoir une juste distance par rapport à l'histoire de Jim et Pamela. Parce que j'ai relu le livre d'Hervé Müller, dont j'ai réfléchi à toute cette histoire. Pendant 6 mois, j'ai tout... Pendant 6 mois, j'ai relu toute l'histoire. Et... Je voulais écrire une chanson rock pour l'Adamant, pour Gaspard et Lidouine, pour l'atelier de l'Adamant. Donc il fallait un thème rock vraiment très essentiel. Donc j'ai relu toute l'histoire des Doors, tous les bouquins que j'avais. Et puis je me suis mis à plancher. Alors j'ai fait 3 versions successives de l'histoire. Et... C'était un défi difficile parce que c'était raconté 10 000 fois cette histoire. Donc il fallait trouver une manière différente de la raconter. Et j'ai eu l'idée de raconter ce que moi je connaissais de l'histoire. Comme moi, je l'ai vécu en fait. Je vis dans ce quartier depuis 30 ans. Donc je vis avec depuis 30 ans, en réalité. Donc toute l'histoire de Jim et Pamela, je peux presque dire que je l'ai revécu, quoi. Émotionnellement, affectivement. Et... les gens du théâtre sont aussi imprégnés, ils ont un lien spirituel avec eux. On est voisins, ils habitent en face, de l'autre côté de la rue, là-bas, la rue Bautry, où habitait Jim. Donc Jim et Pamela habitaient là-bas. Et c'est comme un fantôme qui vit dans le paysage, quoi, qui est là. L'écueil, c'était de vouloir faire comme les Doors, quoi, de vouloir faire un truc comme Bertrand Cantat, enfin un truc ça, c'était le piège pour moi. C'est pas ma personnalité, ça correspond pas à mon univers poétique. Mmh. J'ai trouvé un angle original j'ai écrit des couplets, je racontais ce que ça représentait pour moi, l'histoire des Doors. Puis petit à petit, j'ai enlevé les couplets qui étaient moins intéressants, j'ai gardé l'essentiel. La difficulté, c'était de... Ce que j'avais d'abord écrit, c'est un monstre vêtu de cuir noir avec des bottes en peau de lézard. Ça, c'est les clichés habituels de l'histoire. Ça, je l'ai enlevé. J'ai gardé ce qui me concerne, moi, effectivement. Jim était chercheur. Il était chercheur à l'UCLA. Comme Agnès Varda, il voulait faire du cinéma. Entrer dans le futur par l'œil d'une caméra. J'ai repris par le cinéma, Trabli. C'est un angle différent de l'approche. Il était chercheur à l'UCLA. Il voulait faire du cinéma. Ça, le truc. Ils viennent faire des tournages encore dans la rue Bautry, ils viennent avec des perchemins et tout, caméras, tourner des films là-bas. Encore il y a 3 semaines. Ils viennent là, quoi. Ils viennent
une tournée comme la nouvelle vague, ils viennent dans la rue, en plein air, ils font des tournages. C'est amusant, non ? C'est marrant.
Et donc dans vos cassettes, parce que c'est bon, il n'y a pas que de la musique, il y a aussi beaucoup d'interviews.
Le livre magnifique publié chez Gallimard et le spectacle également magnifique de Brigitte Jacques, Elvire Jouvet 40. Et donc c'était une idée assez comme ça, qui trottait dans la tête depuis quelques années. J'avais très vite pensé à une comédienne et non pas un comédien pour être le personnage du professeur. J'avais très vite pensé à Jeanne Moreau pour être cette comédienne expérimentée et prestigieuse, donnant des cours à des jeunes élèves. J'avais d'autant plus vite pensé à Jeanne que j'avais eu un projet 10 ans avant, en 72-73 avec Jeanne, qui s'appelait Phoenix, titre provisoire, qui est un film qu'on avait donc essayé de faire pendant plus d'un an avec Jeanne et qu'on n'avait pas pu faire parce que le film était, bon, c'était avec Jeanne, avec Juliette, avec Juliette Berthaud, avec Michael Lonsdal, avec Pierre Clémenti. Mais les rôles principaux, c'était surtout le rapport entre Jeanne et Juliette. Et ce film n'avait pas pu se faire pour des raisons purement financières. C'était un film en costume autour du mythe de Sarah Bernhardt, non pas de la réalité de Sarah Bernhardt, mais du mythe de Sarah Bernhardt.
Ces cassettes, ces interviews, ces émissions, comme ces journaux, ça correspond à un travail d'enquêteur que vous faites, de recherche.
Précisément en 1895.
Comment vous définissez, quel travail vous faites autour de ces émissions?
Rivette, il fait partie de la nouvelle vague, mais c'est le plus singulier, dirais-je, un des plus singuliers. Il n'est pas commercial, c'est un aventurier du cinéma, Rivet. Moi, j'allais voir en 77, on allait au Quartier Latin, on allait voir les Aoutouan, Céline et Julie, je les ai vus quand j'avais 19 ans, 20 ans. Donc tout l'univers de Rivet, il m'intéresse beaucoup. Quoi. Il est transversal, il traverse le théâtre, le cinéma, le surréalisme, comme ça il est... Il y a un angle d'attaque du cinéma qui est extrêmement original. Quoi. Dans la bande des quatre, il décrit à la fois tout l'univers que j'ai connu, moi, l'espace marais, tout l'univers des cours de théâtre, toute la scénographie de la vie sociale entre la bourgeoisie, les élèves, les étudiants, les étudiantes qui font du théâtre, tous ces rapports sociaux extrêmement étranges. Et puis il greffe là-dessus une histoire policière qui est complètement abracadabra. C'est l'héritage du surréalisme en fait. Mm-hmm. Et lui, là.
Les coulisses de l'opéra comique, celles de l'Odéon, celles de. On pouvait faire un montage. Mais il y avait quand même un décor central qu'il fallait construire qui était censé être justement l'appartement de la comédienne construit à l'intérieur du théâtre.
Il n'a jamais fait de compromis avec le système commercial. À la différence de Godard. Moins connu que les autres, que Truffaut, que Godard. Il n'a jamais fait de compromis avec le système. Il a toujours trouvé des angles d'attaque. Il a réussi à faire ses films, Le Pont du Nord, etc. Avec un panel de comédiens qui sont. Il n'y a que Michael Lonsdal qui est vraiment très, très connu. Mais il a pu loger. C'est plutôt un aventurier quoi, du cinéma. Il est de la même génération. Il a réussi à raconter des histoires qui sont transversales, comme ça. Il parle de mai 68 en parlant d'autre chose. Mm-hmm. Il arrive à parler de l'espionnage, du terrorisme, en parlant d'autre chose, en parlant d'un cours de théâtre. Mm-hmm. Il traite le féminisme par le décalage, quoi. Il traite toutes les questions importantes de la vie, la vie, la mort, la folie, l'amour, tout ça. Mais pas avec des gros sabots de plein pied comme ça, je vais vous raconter une histoire. Il fait des espèces de labyrinthes de scénarios très étranges. Quoi. Il embrouille les intrigues, c'est très marrant. Quoi. C'est les archives de l'histoire. C'est très émouvant parce qu'on entend toujours avec les crachotis des vinyles, on entend la voix du général de Gaulle, la voix de Pompidou, de Vénemont-Meur. On entend la voix de la foule, quoi. La voix des manifestants, la voix de Sauvageau, Conmeny. Alain Jesmard, on entend la voix de Monsieur Jesmard. Ici le préfet de police, Monsieur Jesmard, est-ce que vous m'entendez? Il y a des dialogues absolument. On entend la Révolution française. C'est génial.
Et ça, vous êtes toujours à la recherche de documents sonores comme ça?
Parce que mai 68, ça m'a donné la clé de l'histoire. C'est un enregistrement qui a été fait pour la. Je crois que c'était pour France Inter ou Europe numéro 1. Et c'est des extraits des actualités de l'époque, mais des enregistrements pris sur le vif, dans la rue, dans les cafés. Pendant les manifestations, on entend les grenades qui explosent, on entend la locution de Pompidou à la radio, on entend la voix de Jean-Paul Sartre qui dit « La jeunesse se révolte contre la génération précédente. Le seul moyen de cette université qu'on leur impose, sa manière de s'en tenir à bout, c'est de la casser. » Donc c'est en temps la voix de Jean-Paul Sartre. Et puis la voix de Pompidou qui fait la voix du général de Gaulle. Et c'est incroyable. Et donc ça résume toute l'histoire. Mm-hmm. En une demi-heure, on a tout le résumé de théâtre de mai 68. On entend les pavés, attention. Vous savez, nous allons vers la place d'enfer, mais je ne sais pas si nous pourrons longtemps contenir la manifestation. Voilà, donc il y a un dialogue entre Jesmar et le préfet de police, et puis le directeur de l'université, c'est formidable. C'est un 33 tours que j'ai acheté en face, chez Laurent, le brocanteur. J'ai regardé dans les bacs entre Véronique Sanson et Enrico Macias, il y avait mai 68. Donc il y avait. C'est signé derrière Derridas, Marguerite Derridas, Derrida, Marguerite Duras. C'est un disque qui a dû appartenir à la collection avec une écriture d'enfant qui écrit Duras, Derridas. Ça devait être les enfants, peut-être de Marguerite Duras, qui avait ça dans un tiroir. Ils l'ont revendu à un brocanteur. Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais il y a toute l'histoire de mai 68. Le Lion de Belfort. Ange, c'était à Belfort, le groupe Ange. Il est né à Belfort. Donc il y a le lion de Belfort. Ces gens-là. On ne discute pas avec ces gens-là. Il y a toute l'histoire. Quoi.
Est-ce que quand vous écoutez ces disques, que ce soit de la musique ou des émissions ou des discours, c'est avec vous que vous en imprégnez, vous êtes dans une recherche et on a l'impression que vous cherchez des clés.
Oui, des indices.
Des indices.
De l'histoire, oui, absolument.
Mais pour résoudre des clés, des indices, pour résoudre quelle enquête,
J'ai enquêté sur toute la culture de 68, donc la pop musique, la bande dessinée, le cinéma, pour renouer les fils de l'histoire, retrouver les liens quoi, qui avaient été cassés par le fil du temps, qui s'étaient perdus. Et Ange, j'ai réécouté les deux, trois premiers albums de Ange, et ça m'intriguait beaucoup et j'ai retrouvé quelques sources, j'ai retrouvé les sources de Ange, par exemple, dans un journal de science-fiction qui est là derrière vous, là, sur l'étagère. Le livre vert là, qui est là, la science-fiction. C'est La bataille du sucre, c'est une chanson de Ange. Le petit livre vert, voilà, qui est là. Voilà. Ça, c'est un truc qui est paru en 73, et il y a la bataille du sucre de Ange. C'est une fiction qui se passe en 2015.
Mais pour revenir à la question 2015. que posait Arnaud.
J'ai retrouvé les sources d'inspiration de Ange.
Quand Arnaud vous demandait, mais finalement, quand vous écoutez ces documents-là, c'est comme si on a le sentiment que vous êtes à la recherche d'indices, de clés, d'une histoire dans laquelle il y aurait une énigme.
Il y a une énigme. Il y avait une énigme.
Et je me souviens de choses dont on avait pu discuter. Vous disiez finalement, je résume, hein, après vous me dites, hein, vous disiez finalement, je recherche tous ces éléments-là parce que l'énigme c'est quand même pourquoi cette, euh,
pourquoi cette rupture, cette cassure entre les générations? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là de quelque chose qui n'était pas transmissible?
Le lien s'est perdu.
Oui.
Comme la génération hippie aux États-Unis.
Quelque chose qui a été coupé.
Une génération qui a vécu quelque chose d'extrêmement intense, mais qui était tellement étrange que pour transmettre ça, à part les films sur Woodstock et puis les 33 tours, on peut leur écouter indéfiniment les disques de Zappa. Mais en France, nous, ce qu'on a vécu dans les années 70, c'était tellement particulier qu'il fallait, refaire tout le voyage, en quelque sorte, pour pouvoir le transcrire. Mm-hmm. C'est le boulot que j'ai fait, moi, depuis 15 ans, je me suis coltiné, j'ai refait tout le voyage à l'envers, en quelque sorte. Tout le voyage.
Tout à fait.
J'ai réécouté tous les disques, j'ai relu toutes les revues, tous les magazines, et j'ai tout inventorié.
Et vous continuez? Non.
Non, j'ai fini.
Ça, c'est fini.
C'est terminé. Pardon. C'était la dernière pièce du puzzle. La chanson de Ange, La bataille du sucre. C'est l'histoire de petits enfants à Noël. C'est le disque de Ange. De Ange, l'explication est là dans un truc de science-fiction qui était paru, un fanzine qui était paru. Il parle de Christin Mézières, tout est lié, quoi. Les choses sont. Ange, ils écoutaient de la science-fiction comme Pink Floyd. Donc ils avaient. C'est toute une culture, quoi, la culture underground. Elle était tissée d'une myriade de radicelles comme ça, de choses reliées les unes aux autres, le cinéma, 2001, le. J'ai retrouvé les photos du film, vous voyez, c'est moi qui ai fait ça, c'est des collages, hein, avec des ciseaux et de la colle. Hein. Je reconstruis ce. Moi j'ai vu ça au cinéma de Versailles, c'était incroyable. Bon, j'ai retrouvé, reconstitué les fils de. Tous les fils de l'histoire. Quoi.
Oui, vous reconstituez les fils de l'histoire, les fils rompus, les cassures, comme ça, reconstruisez le puzzle.
Oui. Mm-hmm.
Est-ce que je peux vous demander, par exemple, quel est le dernier disque que vous avez acheté?
Le dernier.
Montrez-nous alors. Donc, Gérard Philippe, l'inoubliable Gérard Philippe, les grands moments du TNP. D'accord, hein, encore un enregistrement.
Voilà.
Ok. Ça, c'est cette année.
Ou alors
Ou encore dans les choses récentes. Police, Cécile Aubry. L'univers de l'enfance, vous êtes, on l'entendra pas dans l'interview, mais vous êtes aussi entouré, au-delà de la musique, au-delà de du politique et d'énormément de choses de l'enfance aussi, le manège enchanté,
celui-là,
Thierry Lafront,
celui-là, l'année dernière,
Michel Vaillant,
le pilote sans visage,
Michel Vaillant,
qui est génial,
Jean Graton,
qui est absolument génial. Ce disque est absolument phénoménal.
Beaucoup de choses sur l'enfance aussi. Tout ça, c'est un peu.
On a 5 minutes. Vous partez à quelle heure?
Dites-nous.
Oui, dites-nous, oui.
Vous partez à quelle heure?
Ah bah là, bientôt, je pense, parce qu'on a encore d'autres choses.
Pour faire le chemin...
Il est quelle heure, maintenant?
Là, il est du moins le quart. Il est midi moins le quart. Je regardais à votre montre, moi, mais... Oui, c'est ça.
Il est midi moins le quart.
Ça vous va? Vous avez... Je ne sais pas, hein, si... Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric?
C'est beau, hein?
Oui. Différencié, je crois. Bien.
Très bien. Ben merci Frédéric.
Frédéric, ouais, merci de nous avoir reçus dans votre entre.
Merci pour les croissants.
Bon, écoutez.